Bonjour, c'est Pascal Solière, c'est ITcast, l'épisode 19 du 9 octobre 2015. Aujourd'hui, non pas un, mais deux invités. Le premier, Franck Mercier, vient nous parler de données, comme à son habitude. Et aujourd'hui, il nous parle de SQL Data Warehouse, de Azure Data Lake, de Cortana Analytics, et oui, et de Power BI, oui, mais en version 2. Dans un deuxième temps, j'accueille Philippe Béraud, qui vient de publier deux nouveaux white papers concernant deux nouvelles fonctionnalités de Azure Active Directory, à savoir Azure Active Directory B2C. Et Azure Active Directory B2B. Il y en a pour les développeurs, il y en a pour les IT. Ça a été annoncé récemment à l'AzureCon, donc la conférence Azure du 29 septembre, et vous saurez tout juste après la séquence de Franck. Donc d'abord, tout de suite, on retrouve Franck et ses informations sur les données. Je suis donc avec Franck Mercier. Salut Franck.
Bonjour Pascal.
Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, en tout cas dans le cadre du podcast.
Exactement, sinon on se voit régulièrement, mais dans le cadre du podcast, effectivement.
La dernière fois, c'était juste avant les Tech Days en février pour faire de la pub de certaines sessions sur les data.
Exactement, ouais, sur le track données, oui.
Donc tu es toujours sur les données.
Exactement, toujours, sur le sens large du terme.
Et tu viens nous parler aujourd'hui de l'actualité des technologies concernant les données. Actualité qui est fondée sur des annonces qui ont eu lieu cet été et la semaine dernière à l'AzureCon.
Exactement, ouais.
Donc je vais juste introduire un petit peu le sujet et puis comme tu es le spécialiste, je vais te laisser un petit peu détailler tout ça. Donc on a quatre sujets aujourd'hui. SQL Data Warehouse, Azure Data Lake. Alors ça m'intrigue, hein, les lacs de données, les lacs de montagne, plein de données, tout ça. Cortana Analytics. Pareil, intriguant ça. Est-ce qu'on a Cortana?
Elle est partout, Cortana.
Elle est partout. Et Power BI V2. Donc ça, on avait beaucoup parlé l'an dernier.
Oui.
Donc ça, on connaît un petit peu, mais il y a une V2.
C'est une solution qui évolue beaucoup et je pense que ça vaut le coup de refaire un passage dessus pour remettre justement à jour ceux qui nous écoutent.
Excellent. Donc commençons par SQL Data Warehouse. Donc un entrepôt.
Exactement, un entrepôt de données. Donc avant de commencer, donc, je me suis dit qu'il y avait tellement de choses qui sont arrivées et qui pouvaient t'intéresser. C'est pour ça que je t'ai demandé si je pouvais intervenir dans ton émission qui est maintenant connue à peu près partout autour de la planète. Et donc beaucoup de sujets qui peuvent être intéressants. Donc le premier que tu viens d'évoquer, donc SQL Data Warehouse, donc, qui est un service dans Azure, d'accord, que tu peux via ton portail Azure... souscrire. Alors c'est encore aujourd'hui en preview, mais la preview D'accord. est encore en train de s'ouvrir. Alors il faut savoir que contrairement à Azure SQL Database, SQL Data Warehouse est basé sur notre architecture massivement parallèle, donc notre architecture MPP, hein, donc pour pouvoir faire donc, du requêtage massivement parallèle. Pour ceux qui connaissent la technologie sur site qui était APS, Analytics Platform System, ça reprend en fait la même chose, d'accord, mais carrément en tant que service Azure, donc plus besoin d'installer, de configurer, de mobiliser des mètres carrés, etc. C'est un service que tu consommes et que tu vas pouvoir utiliser donc, pour faire des calculs massivement parallèles, mais aussi pour utiliser quelque chose qu'on nous demandait beaucoup, qui était finalement le moteur Polybase. Moteur Polybase qui peut être très intéressant, notamment dans les projets Big Data, pour pouvoir réconcilier des données structurées et des données non structurées.
D'accord.
Alors, ce qui est intéressant dans ce service, c'est qu'on a séparé la partie calcul avec la partie stockage. D'accord ? C'est-à-dire qu'on a une partie où on va stocker les données, très bien. Et puis l'autre partie qui est en fait le moteur de base données qui va pouvoir faire tout ce qui est requêtage, calcul, etc. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en termes de maîtrise de tes coûts au niveau du service, à un moment ou à un autre, tu vas pouvoir mettre sur pause ta base de données. C'est-à-dire, bah voilà, pour des raisons quelconques, ce week-end, je n'ai pas besoin de ma base de données qui soit complètement utilisée par le moteur de calcul. Je n'ai pas besoin de faire de calcul, bah je vais mettre ma base de données sur pause, mais je vais conserver mon stockage. Le stockage reste persistant, tu ne perds pas tes données fort heureusement.
D'accord, on va continuer à payer le stockage, qui est quand même beaucoup moins cher que le calcul.
Exactement. Et si le lundi, bah, tu as besoin de refaire des calculs sur tes données, bah, tu redémarres tout simplement ta base de données. Ce qui est intéressant, hein, comme nous sommes sur une architecture massivement parallèle, tu vas pouvoir choisir comment tu vas te mettre à l'échelle par rapport à tes besoins. Tu vas pouvoir te mettre, dire voilà, je vais utiliser donc une DWU. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une DWU? Ce sont les unités de puissance que tu as pour tes bases de données, mais là, c'est spécifique à SQL Data Warehouse. Donc, ce sont des databases Warehouse Unit qui peuvent aller de 1 à 20. Alors, bien entendu, hein, plus tu montes, plus tu payes, mais en fonction de ce que tu as besoin de faire, tu peux mettre à l'échelle en fonction de tes besoins.
D'accord.
Alors, pourquoi je voulais aussi t'en parler ?
C'est le principe du cloud.
Mais là, on est en plein dedans.
On paye, voilà. C'est élastique, on paye en fonction de ce qu'on consomme.
Exactement. Tu as très bien résumé. Donc, toutes les caractéristiques du cloud, d'ailleurs, qu'on avait beaucoup parlé à l'époque de nos IT camps tout au début, toutes ces caractéristiques, dont l'élasticité. Pourquoi je voulais aussi t'en parler ? Parce qu'on a eu la chance de l'utiliser cet été pour un réel projet chez des clients. Et là où c'était intéressant, c'est que le client en fait, nous envoyait des CSV en masse sur un stockage Azure. Mais vraiment, c'est-à-dire en mode je t'envoie les CSV et tu te débrouilles. Les CSV faisaient plusieurs gigas, plusieurs millions de lignes. Et ce qui est intéressant ici, c'est que avec justement SQL Data Warehouse et le moteur Polybase, on pouvait créer ce qu'on appelle des tables externes qui pointaient directement vers ce stockage Azure. Ce qui fait que tu appliques le schéma de tes données, tu vas dire voilà, mon fichier CSV il est structuré comme ça. Par exemple, la première information que tu vas trouver dans le fichier CSV, ça va être le nom de l'abonné. Le deuxième, ça va être le nombre de journaux qu'il a, sur lequel il s'est abonné, le nombre de fois où il a lu, etc. Donc en fait, tu appliques un schéma sur tes données et lorsque tu vas requêter, ce schéma, il va l'appliquer, mais directement sur le stockage Azure. C'est-à-dire que avec une simple requête SQL, tu vas pouvoir aller chercher les informations qui sont et qui restent dans ton stockage Azure et les ramener en visualisation via le moteur.
Tu veux dire sans les dupliquer dans le stockage de la base elle-même.
Voilà. Et ce qui était pas mal, c'est qu'à chaque fois qu'ils rajoutaient des fichiers, vu qu'ils étaient tout le temps de la même structure, la même requête était mise à jour avec les informations du client. Sauf que tu peux me poser la question suivante, mais en termes de perf...
Je te la pose.
En termes de perf, qu'est-ce que ça donne ? Effectivement, quand tu as 30, 40, 50 fichiers de plusieurs gigas, ce n'était pas terrible. Rien ne t'empêche après de créer une table en interne sur le moteur. Dans SQL Data Warehouse, tu crées une table en interne. Et puis après, tu fais un select into de ta table en externe et tu rapatries tes données dans ton moteur. Après, tu mets à l'échelle avec 5 ou 6 serveurs en parallèle pour faire tes requêtes. Et là, en termes de paires, ça devient intéressant. Et ce que je ne t'ai pas dit et ce qu'on a utilisé aussi, c'est que SQL Data Warehouse embarque les technologies que l'on a déjà mises en œuvre dans SQL Server 2014, qui sont les technologies de type des index en colonne. Donc les index en mémoire. Donc on peut faire un column store index directement sur nos tables, monter ça en mémoire. Et en termes de perf, on obtient des choses super intéressantes. D'autant plus que si tu mets ça, l'autre côté en termes de visualisation de données, parce que tu sais que c'est mon dada, visualisation de données, on a Power BI Service qui fournit de base, nativement, le connecteur vers SQL Data Warehouse. Ce qui fait que tu vas dans powerbi.com, tu fais se connecter à une base de données. Dans les bases de données, tu as le connecteur SQL Server Data Warehouse. Tu te connectes dessus directement en rentrant tes credentials, bien entendu. Et après, tu peux récupérer tes informations. Et comme tu as mis le column store index, tu peux faire des croisements. Tu n'as pas forcément de couche sémantique, de cube, de créer. Il va pouvoir te faire les agrégations qui vont bien avec des performances qui sont tout à fait honorables et en plus qui dépendent du nombre de serveurs que tu as mis en parallèle. Pour te donner un ordre d'exemple, on traitait plusieurs milliards de lignes. Les rapports se créaient entre 8 et 15 secondes en fonction de ce qu'on lui demandait de faire, ce qui était plutôt raisonnable vu qu'on ne mettait pas de couche intermédiaire. Ce qui était intéressant aussi dans ce projet et avec cette solution qui est SQL Data Warehouse, c'est qu'on a pu monter une solution BI complètement cloud. Le stockage Azure, SQL Server Data Warehouse et Power BI.
D'accord.
Juste ces trois éléments. Et on avait une solution qui
scalable,
rien sur site, et qui monte à l'échelle, etc. C'est franchement très intéressant. C'est pour ça que je voulais t'en parler justement dans le cadre de ton ITcast.
Et donc, tu m'as dit que tu avais testé ça cet été.
Ouais.
Donc, c'est un service qui existe depuis le début de l'été, depuis cet été.
Voilà. C'était déjà en ébullition, en prémisse, courant mai-juin. Et donc, courant cet été, la preview a été ouverte, mais de manière un peu privée. Et là, donc, les vannes commencent à s'ouvrir. On peut commencer à s'inscrire donc, sur le.
Et toujours en preview.
Ouais, d'accord. Exactement.
D'accord. Parfait.
Donc franchement, super solution, très, très beau service, très très bonne solution.
Donc deuxième sujet dont tu veux nous parler aujourd'hui, Azure Data Lake.
Ouais, alors ça c'est effectivement, alors c'est des choses.
Donc après l'entrepôt, le lac.
Le lac, effectivement. Donc là on va pouvoir se baigner, d'ailleurs nous sommes en tenue. Et tu as pris ton tuba, j'espère.
Oui, oui.
Ok, donc deep inside. Donc effectivement, alors on en avait déjà plus ou moins parlé d'Azure Data Lake, c'est des choses que des clients, des partenaires commencent à nous en parler. Alors, mais c'est quelque chose qui est devenu, en fait, qui a été annoncé à l'AzureCon de la semaine dernière. Et Azure Data Lake, c'est bien entendu une solution de stockage, mais pas que. D'accord ? Donc,
d'accord.
C'est en fait une combinaison de trois solutions Azure, donc Azure Data Lake Store, on va en parler.
Donc, c'est du stockage de très gros volumes, c'est ça qui le différencie par rapport à…
Très gros volumes, tout type de données, tout type de vélocité de données, mais je vais y revenir.
D'accord.
En fait, ce que je voulais te dire, qu'il y avait dans Azure Data Lake, au sens marketing du terme, hein, tu sais qu'on a nos marketeurs aussi hein, chez nous qui imaginent des choses. Dans Azure Data Lake, il y a Azure Data Lake Store, Azure Data Lake Analytics et Azure HD Insight. Je ne vais pas revenir sur Azure HD Insight vu que c'est un service qui existe déjà. D'accord. Donc, ce sont nos solutions Hadoop dans lesquelles on peut monter des clusters Hadoop, Spark, si, voire même du Storm pour faire du temps réel. Mais ça, on en a déjà parlé. Ça existe depuis un petit moment. D'accord. Nous, on va plus parler de Azure Data Lake Store. Ce que tu viens d'énoncer donc, précédemment, effectivement, ça va être un espace de stockage où tu vas pouvoir stocker tout type d'informations sans te soucier de sa structure, de schéma de données, de taille de fichier. Hein. C'est un fichier qui fait plusieurs gigas, plusieurs téras. Tu vas pouvoir le stocker dedans si tu veux. Mais c'est aussi un stockage qui est très véloce. Ce qui fait que donc à très peu de latence, tu vas pouvoir y envoyer des flux de données qui viennent de scénarios type IoT, Internet of Things, ou des objets connectés. Récupérer des flux de données, les stocker dedans, et pour pouvoir les utiliser par la suite dans des moteurs de calcul. Moteurs de calcul qui peuvent être notamment assurés par Azure Data Lake Analytics, qui aujourd'hui, on peut imaginer ça comme un moteur d'analyse, et qui va permettre justement d'analyser ces données. En fait, il faut voir Data Lake Store et Data Lake Analytics comme une sorte de HDFS dans le cloud. Pour ceux qui connaissent, c'est tout ce qui est Hadoop Distributed System File, donc qui vient du monde Hadoop, du monde Big Data, sur lequel tu vas pouvoir stocker tes données, peu importe leur structure, et pouvoir les analyser en fonction de tes besoins. Ce qui est intéressant, c'est que ce service est complètement intégré avec Azure Active Directory, ce qui fait qu'on peut intégrer la sécurité, l'authentification pour avoir accès à ces services. Et surtout, donc notamment pour utiliser ces données qu'on a stockées, donc il y a plusieurs services. Donc, on peut bien sûr utiliser du HD Insight, comme j'ai parlé tout à l'heure, du Spark, tout ça. Mais on a aussi intégré un nouveau langage qui s'appelle le U-SQL. Donc, tu vas me dire encore un nouveau langage. OK, mais en fait, ça va être la combinaison du Transact SQL que vous connaissez bien et du C-Sharp. Donc, le Transact SQL pour sa facilité hein, et puis surtout pour son adoption. Beaucoup de gens qui viennent de la base de données connaissent très bien ce langage-là. Et surtout, c'est pour tout ce qui est la montée en charge, la scalabilité du C-Sharp. D'accord, et son agilité à traiter et à formater les données pour son utilisation. Donc, c'est vraiment une combinaison de ces deux langages pour traiter des données qui, comme on l'a dit hein, dans Azure Data Lake Store, ce sont des données qui sont structurées, mais c'est aussi des données qui sont complètement déstructurées. Donc, c'est pour pouvoir justement récupérer ces données, les analyser, les combiner entre elles pour en tirer de la valeur.
D'accord.
Donc, service qui a été annoncé la semaine dernière et sur lequel on va prêter beaucoup d'attention dans ces prochaines semaines.
Donc, Azure Data Lake avec le composant Store, mais également le composant Analyse avec donc U-SQL qui est donc intégré à Visual Studio 2015.
Alors, effectivement, c'est un très bon point. Donc, effectivement, qui est intégré avec Visual Studio 2015. Alors, je ne sais pas encore très bien, pour être honnête. Mais par contre, on a aussi annoncé les outils pour Visual Studio. On a annoncé Azure Data Lake Tools.
D'accord.
Et donc, il y a de grandes chances pour que ça vienne par ce biais-là. Voilà, exactement. Donc, ça aussi, à regarder. Donc, c'est tout nouveau. Donc, c'est des choses sur lesquelles nous sommes en train d'investiguer. Et qui, je pense, pour des scénarios... d'analyse avancée et notamment pour tout ce qui est scénario d'objets connectés, ça peut être vraiment quelque chose de très sympa et qui vaut le coup d'être regardé de très près.
Donc, scénario IoT en priorité ?
Pas forcément, mais...
D'autres scénarios typiques de Data Lake en général ?
Alors oui, des scénarios typiquement où il y a beaucoup de flux de données, notamment pour tout ce qui est analyse de transactions. Ça peut être des scénarios qui vont venir justement après, là, dans le prochain sujet, tout ce qui est analyse de perte de clientèle, de ce qu'on appelle de churn, justement, on va en parler. C'est pouvoir stocker des grands flux de données et pouvoir en sortir des tendances, en pouvoir en sortir des alertes sur un flux continu et pour pouvoir alimenter des tableaux de bord en temps réel avec tout un tas de transformations intelligentes, c'est-à-dire via des clusters agent-side, comme je disais tout à l'heure, avec des scripts Pig, Hive, Air, et mettre du machine learning dessus et envoyer tout ça dans du Power BI pour une bonne visualisation.
D'accord.
Donc, dans tout ce que je viens de te dire, là, donc ça c'était Azure Data Lake, j'ai aussi commencé à évoquer des notions d'ingestion de données, de transformation de données.
De traitement en général.
Donc, de traitement en général. Effectivement, Azure Data Lake va pouvoir faire le stockage de données et proposer une couche d'analyse. Mais pour combiner tout ça, on a encore annoncé une autre chose.
Voilà, et c'est donc là qu'intervient notre ami.
Notre ami qu'on aime bien tous,
Cortana. Notre ami Cortana.
Donc tu vois la transition smooth entre Azure Data Lake et Cortana Analytics. Cortana Analytics, donc ça a été annoncé la semaine dernière aussi à l'AzureCon, mais on en parlait déjà, hein, c'est une sorte de secret de polichinelle, on va dire. Hein. Mais ça va permettre en fait, Cortana Analytics, c'est en fait un regroupement de choses qui existent déjà. D'accord, donc une sorte d'enveloppe marketing, si tu veux, hein, d'un nom, mais qui va rendre l'analyse de la donnée concrète. Pourquoi ? Parce que via Cortana Analytics, on va fournir toutes les briques qui vont permettre à l'ingestion de la donnée, à sa transformation, à l'ajout de l'intelligence, donc avec tous les algorithmes de machine learning qu'on peut imaginer. Ces trois briques-là peuvent bien entendu être orchestrées si jamais on veut automatiser les choses, si on a besoin d'aller récupérer des données qui se trouvent sur site et d'autres données qui se trouvent directement dans le cloud. Donc, on sait aussi adresser les scénarios hybrides, des choses qu'on nous demande de plus en plus régulièrement. Et puis, une fois qu'on a extrait la valeur de ces données, de ces transformations de données, nous avons la possibilité, bien entendu, nativement, de pouvoir la visualiser, d'envoyer ça donc, sur des outils de représentation. Bien entendu, dans le mot Cortana, Cortana, on pense aussi à l'assistant personnel. Il est prévu à terme que ça soit aussi complètement intégré avec l'assistant qu'on a sous Windows 10. On pourra très bien interroger Cortana directement pour lui dire bah, « Montre-moi les derniers clients qui nous ont quittés pour aller vers un autre opérateur, par exemple. Et pour quelles raisons ?» Donc, on pourra très bien imaginer ce genre de choses, tout simplement en interrogeant directement Cortana depuis son poste de données. Donc, Cortana Analytics va permettre en fait quelque part de transformer vos données en actions pour essayer justement à partir de ces données d'essayer de prévoir les tendances, surtout aussi faire des recommandations, d'accord, donc pour améliorer tous les processus de prise en charge de décision, proposer des alertes et être vraiment proactif sur les données que l'on récupère. Et encore une fois, sur tout type de données qui pourraient être stockées dans un data lake, comme on parlait tout à l'heure. Cortana Analytics, bien sûr, intégrera data lakes.
Oui, toutes ces nouveautés sont liées. Hein.
Ah oui, c'est complètement lié. On parle vraiment d'un flux complet hein, de gestion de la donnée. Hein. Clairement, oui, de son ingestion au point final qui est sa visualisation. Alors, bien entendu, pour cet IT cast, hein, pour que tu ne sois pas trop perdu, je t'avais fait des slides, mais celles que tu pourras partager, hein, bien entendu. Hein.
On les partagera effectivement sur le site.
Voilà, et surtout, je t'ai mis ce slide-là pour que tu vois que Cortana Analytics, hein, c'est des choses que tu connais peut-être déjà. Hein, c'est ni plus ni moins des briques que vous connaissez déjà, avec d'autres briques qui vont arriver pour pouvoir justement sur toutes les étapes de la vie de la donnée, pouvoir l'ingérer, lui mettre de l'intelligence, la visualiser pour justement en tirer des actions, des alertes et profiter de la valeur que va nous donner Cortana sur ces données.
Sur ces trois premiers sujets, on a vraiment abordé tout ce qui était moteur, tout ce qui était la puissance vraiment liée au traitement des données.
Exactement. Alors, pour finir avec Cortana Analytics.
Pardon.
Non, mais il n'y a aucun problème. Hein. On fournit effectivement plusieurs briques, qui étaient déjà des briques connues, mais on va aussi fournir des solutions horizontales, typiquement. Et on va Cortana Analytics pour la détection de fraude. Cortana Analytics pour tout ce qui est gestion du churn management. Le churn management, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est typiquement pour un opérateur mesurer le nombre de clients qui quittent cet opérateur pour un autre. Et pour quelles raisons ? Et comment on peut empêcher ça ? Comment on peut empêcher ça? Ça peut être par l'analyse de plaintes remontées par certains clients. Quelles sont les plaintes les plus remontées? Est-ce que c'est lié à une couverture réseau? Est-ce que c'est lié à un type d'appareil qui est pas forcément compatible ou qui est pas super apprécié dans les offres commerciales faites par l'opérateur, etc. Donc en plus, on va fournir des offres verticalisées pour pouvoir répondre à des besoins et surtout pour une prise en main de ces modules très rapide pour utiliser la donnée et pas perdre son temps.
Une solution en quelque sorte clé en main.
Exactement.
Pour certains...
Voilà. Donc tout est déjà paramétré. Exactement, tout est déjà paramétré et hop, on n'a plus qu'à y aller et utiliser nos données pour en tirer de la valeur.
Mais ouais, tout ceci est en preview, nos clients peuvent directement aller essayer.
Ils peuvent essayer directement, oui, c'est en preview. Les packages verticalisés vont arriver, mais déjà on peut se faire des solutions d'analyse de tweets, ce genre de choses qui existent déjà. Et d'ailleurs, je recommande d'aller regarder de plus près. Ce genre de choses. D'ailleurs, on a publié pas mal de choses sur nos blogs aussi. Donc, on invite les gens à aller regarder nos blogs, les solutions qu'on a proposées autour de Cortana Analytics.
Donc, tous les pointeurs sur l'article associé.
Exactement.
Super. Donc, dernier chapitre, la visualisation de données.
D'accord, bon, c'est celui que j'aime bien. Donc, Power BI, effectivement, j'en...
Donc, de belles démos en perspective.
Ouais, ça va être dur là pour, pour le podcast. Mais bon, après, vous pouvez venir nous voir au Tech Days Camp. C'est ça qu'on dit maintenant.
Exactement.
Donc, il y a un track data et dans lequel, effectivement, on vous fera toutes les démos qui vont bien. Alors, pourquoi je voulais te parler de Power BI V2, si on peut l'appeler comme ça?
Ouais.
Parce que déjà, il a été énoncé en disponibilité générale, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça.
Il est GA.
Depuis début août. Mm-hmm. Et vraiment, donc, la nouvelle plateforme Power BI est vraiment là pour pouvoir intégrer, ingérer donc, tout type de données. Et notamment, je parlais tout à l'heure des connecteurs. Et on a mis à disposition des connecteurs directement vers nos solutions Azure, type Data Warehouse, dont je parlais tout à l'heure. Donc, on peut très bien s'imaginer une solution, monter un entrepôt de données dans le cloud et puis avoir le connecteur qui permet directement de s'y connecter via un Power BI. Donc, c'est une solution qui est vraiment prête pour aussi tout ce qui est big data, les objets connectés et ce genre de choses. Quand je dis que c'est une solution qui est prête pour les objets connectés, ça veut dire que Power BI sait très bien gérer le temps réel. Donc, on peut très bien imaginer donc, se créer un tableau de bord et puis recevoir les informations en temps réel pour voir comment évolue tel ou tel capteur, comment se déplacent nos différents véhicules sur une zone, donc sur une carte, ce genre de choses, et ce, en temps réel. Bien entendu, l'idée, c'est d'avoir un service de création de rapports le plus simple possible. Et quand je dis le plus simple possible, c'est-à-dire qu'un outil qui vous permet d'être assez familier et surtout exploitable sur tout type d'appareil. Car on n'a pas à oublier le fait que la mobilité fait partie de notre quotidien. Il fait aussi partie de nos stratégies, hein, mobile first. Et donc, Power BI est complètement compatible avec tous les appareils mobiles, que ce soit bien sûr les appareils Windows, mais les appareils Apple, Samsung, sur Android, sur iOS, sans problème.
C'est-à-dire qu'on a des applications spécifiques pour toutes les plateformes.
Exactement.
Pour Power BI.
Et ce qui était rigolo, c'est que les applications pour iOS et Android sont arrivées en premier, et arrivaient ensuite celles pour Windows.
Mais, c'est un petit peu l'usage en ce moment. Donc, iOS, Android.
Et Windows.
Windows Phone.
Windows pour le moment, Windows Phone ça devrait arriver. Il y a aussi Windows. Pour l'iPhone, il y a l'appli pour l'iPhone qui est très bien en plus, qui est magnifique. Donc on a vraiment prévu justement la mobilité. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une expérience unique, c'est-à-dire tu crées ton dashboard sur ton portail Power BI et tu récupères quasiment la même chose sur tes appareils mobiles. Et ça c'est vraiment pas mal. Alors, on est vraiment là pour simplifier au maximum l'acquisition de données. Et c'est pour ça que cette nouvelle version de Power BI vient avec ce qu'on appelle des content packs.
D'accord.
Ou des packs de contenu, ça dépend comment tu veux le dire. C'est-à-dire que quand tu vas arriver sur ton portail Power BI, mais je vais parler après de cette notion de portail, hein, parce que je n'ai pas encore parlé, je l'ai fait volontairement. Mais quand tu te connectes sur ton portail Power BI, tu vas avoir accès à plusieurs types de connecteurs. Donc, soit tu peux aller te connecter à tes fichiers Excel comme tu as l'habitude de faire, à tes bases de données ou à des services comme Azure Data Warehouse, SQL Data Warehouse dont on a parlé tout à l'heure. Mais tu peux aller aussi chercher des connecteurs vers des solutions SaaS, d'autres éditeurs comme typiquement Google Analytics, Salesforce. Tu peux directement te connecter à tes propres informations.
Dynamics CRM aussi,
bien entendu, Microsoft. Dynamics CRM. La seule chose dont tu as besoin, c'est de ton mot de passe et de ton compte utilisateur.
GitHub, je vois également.
Ouais. GitHub, et là, donc, on se connecte pour toi. Et puis, il y en a plein qui arrivent. Hein. Donc, il y a Sedge.
Oui.
Voilà, pas plus tard que la semaine dernière, j'étais à Nantes pour justement des conférences sur la matinée BI à Nantes sur le sujet. Et j'avais beaucoup de questions autour de Sedge. Donc, le connecteur arrive. Office 365, ça arrive, bien entendu. Donc, tout type de connecteurs qui seront disponibles afin de vous permettre de récupérer facilement vos données, de les analyser au sein de Power BI. Et bien sûr, de profiter après de toute la suite mobile qu'on a vue précédemment. Avoir son petit rapport Google Analytics ou GitHub ou Salesforce préparé sur le portail Power BI et qu'on reçoit sur son Windows Phone ou sur son iPhone. Pourquoi pas, ça peut être sympa. Alors, je crois qu'on en avait un petit peu parlé au dernier podcast qu'on avait fait lorsqu'on était en train d'annoncer les changements autour de Power BI. Mm-hmm. Mais on va le rappeler rapidement. Donc, Power BI sort d'Office 365. C'est-à-dire qu'il n'y a plus besoin d'avoir une souscription Office 365 pour bénéficier de Power BI. Power BI sort complètement et ça devient, notamment, tu peux y avoir accès via un portail, donc https://app.powerbi.com. Et puis après, tu te logs et hop, tu as accès à ce service. Néanmoins, on garde quand même une interaction avec Office 365 pour tout ce qui est collaboration. Si tu as besoin de collaborer autour de tes rapports, tu pourras créer des groupes de discussion autour de tes rapports, tu pourras partager des calendriers, rajouter des membres qui auront accès à un groupe de rapports pour pouvoir collaborer autour de ces rapports.
D'accord, donc on bénéficie de la fonctionnalité des groupes Office 365 directement depuis le portail Power BI.
Exactement.
D'accord.
Il n'y a plus d'intégration en termes de licensing, si c'est pour être beaucoup plus clair. On n'est plus obligé de payer une licence pour Office 365, puis une licence Power BI. Là, on achète juste Power BI, qui est aujourd'hui en freemium. On l'avait annoncé au Tech Days, mais on le annonce aujourd'hui. Hein. Donc, c'est un freemium. Si jamais vous voulez passer en version pro, c'est aujourd'hui 10$ par mois par utilisateur. Donc, on a, comme disait, le prix par 5. Mais on garde quand même ce qu'apporte Office 365 en termes de collaboration autour des rapports. Les services sont quand même complètement intégrés. Ce qui est plutôt pas mal.
Tout à fait.
Alors, j'ai parlé de Power BI. Il faut quand même clarifier des choses parce que bon, j'ai beaucoup de clients en ligne et beaucoup de partenaires qui me parlent de Power BI. Mais quand on parle de Power BI, maintenant, il faut savoir si on parle de Power BI, le portail. Donc, c'est ce qu'on évoquait depuis tout à l'heure. Hein. Le portail Power BI, on se connecte avec app comme app, app.powerbi.com, on se connecte sur le portail. Mais on a aussi prévu les outils sur le poste de travail. Et j'ai dit les outils parce qu'il y en a deux, histoire de faire simple. Tu nous connais, donc c'est un peu simplifié.
Moi, je me rappelle au tout début où on parlait ensemble des Power BI, c'était Excel.
Exactement.
Le client utilisateur, le client.
La partie
visible de l'iceberg, en fait.
Voilà, ce qu'on appelle aussi le client riche, c'était Excel. L'intégration de tout ce qui était la business intelligence au sein d'Excel. Ce qui, ma foi, était une très très bonne idée pour l'usage et l'adoption de nos technologies avec un outil simple et familier comme Excel. Sauf que, tu as vu le truc venir en termes de critique. C'est très bien tout ça, mais Excel 2013 n'est peut-être pas déployé partout.
Voilà.
Donc, on a très bien entendu les remontées de nos utilisateurs. Et c'est pour ça qu'on propose aussi ce qu'on appelle Power BI Desktop.
D'accord. Donc, une application
gratuite que tu installes sur ton poste de travail. OK ? Donc, si on essaye de repartir, parce que pour qu'on soit bien clair, Power BI existe dans Excel. D'accord ? Dans Excel, où tu vas trouver Power Query. Pour rappel, Power Query permet d'aller chercher l'information n'importe où elle se trouve et la transformer pour l'envoyer soit dans une feuille Excel, soit dans un modèle Excel. Modèle Excel, on l'appelle aussi Power Pivot. C'est la même chose, histoire de faire simple. Donc, Power Pivot est aussi dans Excel. C'est ce qu'on appelle un modèle de données. Et là-dessus, tu vas faire des rapports, soit des tableaux croisés dynamiques, soit des rapports interactifs Power View. D'accord ? Et encore un Power, parce que je vois que tu rigoles. Et le dernier Power, c'est Power Map. Power Map qui te permet donc de faire des rapports cartographiques et puis géospatial, temporels, directement dans Excel.
Oh, c'est très clair, c'est très clair.
Donc, dans Excel, 4 modules, Power Query, Power Pivot, Power View, Power Map. Pour ceux qui, pour X raisons, n'ont pas Excel 2013, on a mis à disposition Power BI Desktop. Power BI Desktop se télécharge soit à partir du portail app.powerbi.com, soit à partir du site Microsoft. C'est ni plus ni moins MSI qu'on installe. Et avec Power BI Desktop, qu'est-ce que l'on peut faire? On peut faire tout Power Query et tout Power View. Mais bien sûr, c'est pas drôle, on a mis une petite feinte. On peut faire Power View plus plus. C'est-à-dire qu'on peut faire beaucoup plus de choses en Power View pour Power BI Desktop que pour le Power View d'Excel. C'est-à-dire qu'on a les Sunbursts dans Power BI Desktop, on a les Treemap, on a les Funnels, on a les combos. C'est-à-dire les combos, qu'est-ce que c'est? Ce sont les graphiques avec des barres sur lesquelles tu peux mettre des lignes en plus. Donc tu as plusieurs axes d'analyse sur le même graphique.
D'accord.
Je vois que tu me regardes avec des yeux bizarres là quand je commence à parler.
Non, je comprends tout, simplement il nous en manque deux là.
Effectivement, il en manque deux qui n'y sont pas, ça reste...
Donc, pour si on veut faire des cartes ou du pivot, ça sera dans Excel.
Presque, parce que dans PowerView, tu peux faire des cartes.
D'accord.
Mais elles sont quand même plus avancées dans PowerMap, je suis bien d'accord avec toi. En clair, dans Power BI Desktop, tu ne peux pas faire tout Power Pivot. Tu peux faire des liaisons de table, rajouter des formules de calcul, etc. Et tu ne peux pas faire PowerMap. Et tu ne peux pas faire le tableau croisé dynamique, qui reste le point principal d'Excel. Mais ça, c'est normal, ça se comprend.
OK.
Ce qui est intéressant, c'est que ce sont des services que l'on met à jour. Power BI se met à jour quasiment tous les mois. Et donc maintenant, si jamais tu as fait un très beau rapport avec Excel 2013 ou même Excel 2010, tu peux l'importer dans Power BI Desktop et récupérer ce que tu as fait dans Power BI Desktop, hormis les tableaux croisés dynamiques, bien entendu. Et tu peux ensuite publier directement vers le portail app.powerbi.com pour pouvoir partager tes rapports. Et même sur le portail, tu peux créer des rapports. Si tu te connectes à une source de données, puis tu peux faire des croisements, tu peux faire des graphiques, etc. Mais tu ne vas pas pouvoir créer aujourd'hui des formules de calcul, faire des champs calculés, ce genre de choses, ou des liaisons entre les différentes tables. Ça, tu ne pourras pas faire.
Donc l'appli desktop, elle est pour Windows?
Oui, bon, aujourd'hui, elle est pour Windows uniquement.
Excel, appli desktop, portail. Il nous manque la composante apps mobile.
Donc les apps mobiles donc, qui sont disponibles depuis le portail. Donc si jamais tu veux bénéficier de ton rapport sur tes mobiles, sur ton iPhone ou autre.
Voilà, c'est de la consultation de rapport là.
C'est de la consultation de rapport interactive hein, bien entendu. Mmh. Sur l'iPhone par exemple, tu peux même mettre des alertes, hein, si tu veux t'alerter sur un déclenchement de seuil, ce genre de choses. Ce qui fait que tous les rapports que tu as faits, soit avec Excel 2013 ou avec Power BI Desktop, une fois qu'ils ont été publiés sur le portail, sont récupérables via les applis mobiles. Et enfin, je terminerai par une dernière chose, donc les connecteurs, notamment parce qu'on nous demande de plus en plus de scénarios hybrides. Donc, alors, ce n'est pas une réelle nouveauté, mais c'est juste pour qu'on en reparle. Il est possible, donc, depuis le portail app.powerbi.com, d'aller se connecter à un Cube Analyse Services qui se trouve sur site, une connexion qu'on appelle en live query, en connexion directe, c'est-à-dire que c'est Power BI qui envoie ces requêtes. Les requêtes sont exécutées sur les serveurs et juste les résultats est renvoyé à Power BI pour afficher les rapports. Attention, aujourd'hui, ça ne marche que pour les cubes tabulaires. Mais, alors bien sûr, le cube multidimensionnel, c'est quelque chose qu'on nous demande, qu'on nous redemande à fond. Hein, d'accord. Donc, quand j'ai fait la première présentation il y a quelques mois de ça, c'est la première question que j'ai eue. Ça arrive, hein, c'est dans les cartons, on espère, pour la fin de l'année. Donc, je vous invite d'ailleurs à aller sur le site app.powerbi.com et à voter, parce que vous pouvez voter pour les fonctionnalités que vous voulez voir apparaître.
Il y a un user voice.
Voilà, c'est exactement ce que j'allais dire. Donc, aujourd'hui, la connexion au Cubolab de mémoire, elle est en top position. Donc, n'hésitez pas à rajouter vos voix pour l'avoir pour les cubes multidimensionnels. Ce genre de solution permet justement de traiter aussi les solutions, les besoins hybrides où on veut que les bases de données restent sur site. Donc voilà, donc je pourrais en parler des heures hein, de Power BI, mais ce n'est pas le but non plus de cette Tacticast. J'espère que ça a été clair.
Ben on a fait le tour de quatre belles nouveautés. Donc SQL Data Warehouse, Azure Data Lake, Cortana Analytics et puis Power BI V2. Donc c'est vraiment une V2 hein, par rapport à la version précédente. Beaucoup de nouveautés. Est-ce qu'on a fait le tour?
Eh ben, écoute, on a fait le tour, oui, tout à fait. Hein.
Bah écoute, merci beaucoup Franck.
Bah merci à toi de m'accueillir pour ton émission.
Bah écoute, quand tu veux pour la suite des aventures des technologies de données, parce que c'est intéressant tout ça.
Ok, bah avec plaisir.
Allez, à bientôt. Salut, merci.
Je suis donc avec Philippe Béraud de la direction technique et sécurité de Microsoft France. Bonjour Philippe.
Bonjour Pascal, écoute, merci de m'accueillir.
Donc, cette fois-ci, on fait un duplex avec Lyon. Parce que comme d'habitude, tu es toujours basé à Lyon. Et donc, on fait ça à distance avec nos outils Skype.
Donc, les magies de la technologie.
Voilà. Et donc, tu as un sujet tout à fait d'actualité aujourd'hui, puisque si on se rencontre aujourd'hui, c'est que tu es en train de publier des white papers sur des nouvelles technologies d'Azure Active Directory. Les auditeurs peut-être réguliers du podcast reconnaîtront peut-être le sujet qu'on a abordé très rapidement la semaine dernière avec Stan, puisqu'il s'agit de Azure Active Directory B2C et Azure Active Directory B2B, donc un nouveau service et une nouvelle fonctionnalité. Voilà, de Azure Active Directory. Que tu as vraiment creusé et pour lesquels tu publies donc des white papers.
Alors, pour être précis, effectivement, Pascal, donc d'un côté un nouveau service, on va parler d'Azure AD B2C, qui est aujourd'hui disponible dans sa version basique et plus précisément par rapport à l'édition basique, dans pré-version par rapport à cette édition basique. On a d'ores et déjà annoncé que cette édition basique sera dans le futur complété par une édition premium, sans surprise, comme on peut le laisser supposer par rapport à la basique. Donc, c'est un nouveau service à part entière. Donc, ça reprend la technologie d'Azure Active Directory. Et c'est quelque chose qu'on va instancier sous la forme d'un nouveau répertoire, parce que ce répertoire va avoir des caractéristiques particulières. Et de l'autre côté, on a une fonctionnalité, comme tu le soulignais, Azure AD B2B Collaboration, pour reprendre le nom complet de la fonctionnalité, qui est une fonctionnalité qui, elle, s'instancie sur tout le cater Azure Active Directory, nouveau ou existant, donc que l'on soit en édition gratuite, basique ou premium. Donc ce sont dans les deux cas des versions préliminaires publiques qui sont apparues le 16 septembre dernier, pour être précis. Donc tu faisais référence au livre blanc, donc est d'ores et déjà publié sur un souhait désormais public. L'adresse raccourcie http://aka.ms/aadpapers en un seul mot avec un S à la fin. Et je pense que tu mettras l'URL également en accompagnement du podcast. Oui. Un livre blanc qui présente dans son ensemble les objectifs à ce qu'est d'une façon générale Azure AD B2C et l'édition aujourd'hui disponible en version préliminaire Azure AD B2C basique, avec à quoi correspond, enfin, on pourrait traiter de quoi traite, enfin, de quoi, à quoi répond ce nouveau service B2C, quels sont ses objectifs, quelles sont ses caractéristiques principales, et puis, comme à l'accoutumée dans ces livres blancs, on va proposer un guide pas à pas pour finalement s'imprégner de ce que permet de faire le service et de la façon dont il permet de le faire. Voilà, on va bientôt arriver également sur ce même souhait, un autre livre blanc qui exactement la même philosophie par rapport à Azure AD B2B collaboration. Donc, comme j'ai dit, il va bientôt arriver potentiellement d'ici la fin de cette semaine. Il est en cours de relecture par les équipes de Corp.
Donc, on va y venir au sujet des deux livres blancs. Ce qui m'intrigue un petit peu, c'est l'utilisation de Sway pour publier des livres blancs techniques. C'est nouveau. C'est la première fois qu'on voit ça. C'est magnifique, en tout cas. C'est très, très bien fait et très facile à naviguer.
Écoute, merci de ton retour. J'espère en tout cas que nos auditrices et auditeurs partagent le même retour. Et si ça n'est pas le cas, qu'ils nous fassent part de leurs commentaires pour qu'on puisse adapter l'expérience. On était peut-être arrivé par rapport à ce que permet le centre de téléchargement. On a eu la volonté, par rapport à un ensemble de livres blancs sur Azure Active Directory, aujourd'hui un peu plus d'une douzaine, de tous les regrouper dans une seule et même page de téléchargement. Pour autant, ça fait beaucoup et l'expérience, finalement, pour savoir quel est dans son contexte particulier, à part avoir la volonté de tous les lire en partant du premier jusqu'au dernier, l'expérience était relativement difficile pour trouver finalement ce dont on avait besoin. C'était assez compliqué, donc il nous a semblé intéressant et pertinent d'utiliser les nouvelles caractéristiques proposées par Sway pour proposer une expérience graphique de découverte de l'ensemble des livres blancs et pouvoir ajouter un certain nombre d'éléments de contexte par rapport à ces documents. L'autre point intéressant, c'est la navigation avec une interface de type responsive, de pouvoir finalement adapter l'expérience de navigation à l'appareil depuis lequel on accède en fait à cette page souhait, donc pouvoir finalement le faire aussi bien depuis un navigateur sur son portable ou sur sa tablette que depuis un navigateur sur son smartphone préféré.
Exactement, ou l'application Sway depuis son appareil.
Ou l'application Sway, tout à fait. De la même façon.
Oui, donc si vous ne connaissez pas Sway, je vous encourage à regarder. C'est vraiment intéressant comme format. C'est assez récent, hein, ça a à peu près un an comme format chez Microsoft.
Mais ça permet de faire des choses, effectivement, me semble-t-il, assez élégante et oui. Finalement en toute simplicité, puisqu'il s'agit simplement de constituer un certain nombre de cartes dans le langage souhait, ces cartes pouvant être des images, du texte, des vidéos ou d'autres choses, et ensuite de les assembler par rapport à des mises en forme que propose automatiquement souhait.
Ok, eh bien, donc attaquons le premier white paper, hein. Donc ça concerne ce nouveau produit donc, qui s'appelle Azure AD. B2C
basique pour l'édition courante.
Voilà, B2C comme business to consumer. Donc, il s'agit là de permettre à des développeurs d'applications d'utiliser des identités grand public. Enfin, quand on dit business to consumer, B2C, hein, on parle du grand public, dans leurs applications. Donc, au fond, on connaissait déjà avec Azure Active Directory des choses comme pour les développeurs, comme ACS. Est-ce que tu peux nous dire rapidement d'où on vient et où on va avec cette nouvelle
et ce nouveau produit à faire et pourquoi on cherche à le faire. Donc commençons peut-être, j'évoquais au tout début de notre échange, Pascal, le fait que ça soit un nouveau service en tant que tel, parce que répondant dans la pratique à d'autres caractéristiques en termes de locataires. Lorsque l'on parle d'application business to consumer, et c'est ce que l'on souhaite en tout cas à nos clients par rapport à leurs applications respectives, c'est de pouvoir toucher le maximum de monde possible, et on parle potentiellement de dizaines de milliers, centaines de milliers, voire de millions d'utilisateurs, à Limoges par exemple du Real Madrid, qui est un utilisateur de ce nouveau service, avec à la clé 450 millions de fans de par le monde. Donc l'un des objectifs, et c'est pour cela que on s'appuie sur une technologie qui reprend beaucoup d'Azure Active Directory tel qu'on peut le connaître aujourd'hui au travers des trois éditions gratuites, basiques et premium, mais c'est un nouveau service en tant que tel, parce que derrière, le locataire va avoir Azure Active Directory, va avoir des caractéristiques qui permettent justement de passer à l'échelle par rapport à cette masse, entre guillemets, de population d'utilisateurs externes, et qui permet justement à toute organisation, quelle qu'elle soit, de pouvoir prétendre gérer jusqu'à une centaine ou quelques centaines de millions d'utilisateurs. Donc voilà pourquoi derrière, c'est quelque chose que l'on instancie sous forme d'un nouveau service et non pas une nouvelle fonctionnalité, comme dans le cas d'Azure AD B2B collaboration qui vient s'instancier en fait au-dessus de ce que l'on peut connaître aujourd'hui d'Azure AD. Tu faisais référence à ACS. Alors oui, effectivement, historiquement, alors ACS 2 permettait de pouvoir, depuis son application, le cas échéant, permettre une authentification vis-à-vis de différents fournisseurs d'identité, et dans ce contexte en particulier vis-à-vis de fournisseurs d'identité sociale, type Facebook par exemple. Donc c'était une caractéristique effectivement d'ACS, mais pour autant, si tu avais la volonté de développer une application par exemple de commerce en ligne, tu allais pouvoir t'appuyer, t'adosser d'un point de vue développement sur ACS pour assurer le relais et permettre à l'utilisateur de choisir le cas échéant entre un ensemble de fournisseurs d'identité. Mais point 1, si tu voulais toi-même pouvoir le cas échéant avoir tes propres identités plus permettre d'aller authentifier l'utilisateur vers un autre fournisseur, c'est une expérience qui n'est pas forcément pré-câblée de base. Ensuite, tu avais la capacité de proposer un choix parmi des fournisseurs d'identité sociale, mais avec une capacité de personnalisation qui existait, mais pas forcément aussi poussée qu'on pouvait le souhaiter. Et derrière, par rapport à ceci, dans toute application en ligne, tu as généralement, si on prend par exemple un site de commerce en ligne, tu as à la fois la notion d'expérience de création d'un compte, qu'on souhaite la plus simple possible, parce qu'on sait bien que, bien souvent, typiquement, lors d'un acte d'achat, le fait d'avoir à créer son compte fait que, bien souvent, on peut aller voir ailleurs avant de terminer l'acte d'achat. Tu as l'expérience de connexion, si tu as un compte existant. Bien évidemment, on peut coupler les deux expériences, c'est-à-dire à la fois la création et la connexion, une fois que le compte est créé, dans la foulée. Mais tu as aussi... potentiellement, par rapport à cette création de compte, tu peux vouloir un certain nombre de caractéristiques additionnelles que ne vont pas forcément du tout te donner un fournisseur d'identité sociale. Des caractéristiques qui te sont propres, que l'utilisateur va renseigner par rapport à l'expérience que tu veux lui proposer sur ton site ou sur ton application mobile. Et derrière, les capacités de pouvoir éditer ce profil, les différentes caractéristiques, voire derrière, potentiellement réinitialiser ton mot de passe ou d'autres opérations de gestion de ton propre compte. Donc tout ceci, bien qu'avec ACS, tu aies cette capacité de pouvoir déléguer l'authentification à un fournisseur d'identité, fût-il social, tout ce dont on vient de parler ici restait à la charge en fait, du développeur et à la charge de l'application.
D'accord.
Donc, ce que l'on propose avec Azure AD B2C, c'est finalement de déléguer tout ceci à un service qui est fait pour cela.
Voilà, de simplifier tout cet ensemble de fonctions qui sont absolument nécessaires quand on fait ce genre de site.
Qui sont clés, que l'on retrouve systématiquement. Donc là, je parlais d'expérience, on est effectivement dans des expériences type. Donc, faire en sorte de proposer finalement à nos clients le meilleur des deux mondes, puisque finalement, quand je veux développer une application en interne, dans un contexte, par exemple, de collaboration, comme on l'évoquera après, ce qui est le plus simple pour moi d'un point de vue développeur, c'est de dire, je fais, quand j'ai besoin d'avoir une création de compte ou d'une signature, une connexion, c'est de rediriger finalement vers un fournisseur d'identité ou un nœud de confiance, et puis au retour, je reçois finalement un jeton de sécurité dans lequel j'ai les caractéristiques de l'utilisateur. Donc, c'est généralement le plus simple et on peut le faire de façon brute au niveau du protocole ou à travers d'un certain nombre de frameworks, mais c'est quelque chose aujourd'hui que les développeurs maîtrisent bien. Et finalement, une des volontés d'Azure AD, c'est de prolonger finalement cette capacité de développement qui est aujourd'hui largement maîtrisée par la communauté et permettre au niveau des services de gérer dans ce contexte-là toutes les expériences que l'on vient d'évoquer, donc la capacité de créer un compte, de se connecter avec un compte, de créer et de se connecter, de gérer son profil, de réinitialiser son mot de passe, voire même dans ce contexte, d'avoir par exemple une authentification forte si besoin.
Voilà, ça c'est un point important que je voyais également, c'est la capacité d'ajouter une authentification multifacteur. De type qu'on connaît avec un téléphone, un SMS, ce genre de choses-là, pour améliorer la sécurité.
Donc, par rapport à SS, justement, on va permettre la redirection vers un certain nombre. Donc, tu peux utiliser directement ton répertoire Azure AD B2C pour créer le compte utilisateur. Mais dans ce contexte-là, tu peux faire en sorte que ce compte soit enregistré comme étant un compte où l'authentification s'effectue au niveau d'un fournisseur d'identité sociale. Donc aujourd'hui, on va supporter Facebook, Google+, Amazon, LinkedIn. La partie Microsoft Account arrive rapidement, mais est un petit peu différée parce qu'aujourd'hui, on est en train, d'un point de vue développement, de fusionner les expériences entre l'infrastructure justement Microsoft Account et l'infrastructure Azure AD. Donc, c'est quelque chose qui va arriver très prochainement. Mais si on reste sur le registre de l'identité sociale, c'est une identité que chacun peut se créer. Je peux être Pascal Solière et tu peux être Philippe Béraud. Le plus, c'est de tirer en premier. Donc, en fait, ce sont des caractéristiques que tout un chacun peut dire sur lui-même, mais qui ne sont pas forcément complètement assises. Donc, derrière, c'est la capacité, dans ce contexte-là, par rapport à la création de compte, de pouvoir préciser un certain nombre d'attributs sur toi-même, mais c'est vrai qu'on reste toujours dans ce registre, dans des choses que l'on prétend. On peut, par contre, dans l'expérience d'enregistrement, vérifier une adresse mail. On va pouvoir également imposer de donner un numéro de téléphone et de vérifier ce numéro de téléphone et faire en sorte que ce numéro de téléphone serve ensuite à une authentification multifacteur, pour renforcer finalement dans ce registre-là la force de l'authentification, au-delà de ce qui est fait par le fournisseur d'identité sociale. Et tu verras arriver, alors à la fois dans l'édition basique, mais surtout dans l'édition premium, ensuite des capacités pour aller aussi vérifier les attributs utilisateurs par rapport à d'autres services. Mmh. Mais bon, c'est des choses qui ne sont pas encore complètement juste annoncées ou ébauchées, donc je m'arrêterai là sur cette dimension. Mais oui, l'authentification multifacteur dans ce contexte me semble un élément important et potentiellement aussi un élément rassurant par rapport aux utilisateurs de l'application. Donc, quelque chose qui est bien finalement pour les deux parties.
Voilà, donc la solution est assez complète, hein, d'après ce que je vois. Donc une entreprise qui aurait une solution à mettre en œuvre avec un nombre d'utilisateurs importants, une communauté très importante. Alors c'est vrai que le Real Madrid est un bel exemple, parce qu'eux, ils sont souvent cités.
Exactement, la communauté, voilà, mais tu peux croître au fil du temps. Rien, tu peux partir petit et puis croître, et Azure AD B2C sera t'accompagner.
Voilà, on ne peut pas se permettre de louper des utilisateurs parce qu'ils ne peuvent pas s'authentifier avec leur compte habituel qu'ils utilisent, qu'il soit Google+, ou Amazon ou autre.
Donc tu verras d'ailleurs arriver d'autres comptes au-delà de la liste de quatre fournisseurs d'identité sociale que je n'ai, plus
évidemment
la partie Microsoft Account. D'autres fournisseurs vont également venir se greffer. Alors, voilà. Ce qui est important aussi par rapport à ceci, c'est bien qu'on délègue cette capacité à un service externe, vu de l'application, il me semble tout à fait impératif que pour l'utilisateur final, on n'ait pas du tout l'impression d'avoir changé d'application.
Oui. Tout à fait, il y a une personnalisation qui fait qu'on reste dans l'application.
Et je pense que la personnalisation est un élément clé. C'est-à-dire que la personnalisation, elle se fait au travers de... Finalement, on a des expériences qu'on va pouvoir personnaliser. Donc, c'est déjà un premier niveau de personnalisation, à pouvoir la personnaliser par rapport à l'information qu'on va collecter ou par rapport à l'information que l'on demande pour accueillir l'utilisateur. Mais la personnalisation, elle doit également avoir lieu d'un point de vue graphique, de manière à ce que l'identité de l'application ne soit pas travestie finalement par ce service sur lequel on s'appuie pour réaliser un certain nombre d'opérations. Il faut vraiment que ce service soit une partie intégrante de l'application. C'est une condition clé, me semble-t-il, du succès, et c'est ce que l'on permet aujourd'hui avec ce service, où on peut aller finalement jusqu'à présenter ses propres pages HTML avec ses propres feuilles de style par rapport à ses différentes expériences. Bon, il y a quelques petits bémols dans la version préliminaire, mais lorsque la version va passer en version DIGIA, en disponibilité générale, on aura une capacité d'utilisation de son propre code HTML sur l'intégralité des expériences qui sont prises en charge par le service.
Voilà.
Donc c'est vraiment un point clé d'acceptation d'utilisation d'un service externe pour réaliser finalement ces tâches qui peuvent être relativement lourdes. Elles sont à la fois et importantes et capitales pour l'application, également lourdes en termes de développement. Et du coup, ce que permet le service, c'est finalement de le prendre en charge complètement pour une organisation, quelle qu'elle soit.
Donc, dans ton livre blanc, il y a une première partie qui décrit précisément le fonctionnement du service, avec les différents, par exemple, le workflow de provisionnement, le principe de fonctionnement en détail.
Des politiques, par exemple, pour pouvoir définir par rapport aux différentes expériences, et finalement, comment... Dans une redirection que j'évoquais tout à l'heure, sur le principe même d'une application qui délègue son authentification, finalement, on va rajouter sur des protocoles standards. Donc aujourd'hui, en termes de protocoles, on ne l'a pas évoqué, mais ce qu'utilise et sur quoi repose en fait Azure AD, B2C, Basic, ce sont les protocoles OpenID Connect et O2. Donc finalement, vraiment les protocoles modernes qui sont utilisés finalement depuis tous les types d'appareils pour accéder à des applications, quelles qu'elles soient. Et dans ce contexte-là, le fait que Azure AD B2C, pour le compte de l'organisation, va dérouler finalement un certain workflow par rapport à une expérience de création de compte, de signature, d'édition de profil, c'est simplement l'ajout d'un paramètre dans la query string. On va simplement avoir un P égal avec le nom de la politique que l'on aura défini dans le service. Et la politique, elle va décrire très simplement le workflow que l'on souhaite. Si c'est par exemple un workflow de création de compte, ce workflow va pouvoir spécifier que je peux m'authentifier pour créer mon compte sur cette liste de fournisseurs d'identité sociale. que dans ce cadre-là, je souhaite collecter cette liste d'attributs. Donc, il y a les attributs, bien évidemment, qui vont venir du fournisseur d'identité sociale, en général peu nombreux, à l'issue d'une authentification réussie, plus tous les attributs que je vais pouvoir aller piocher dans le schéma standard, plus tous les attributs personnalisés que je vais vouloir rajouter par rapport à ce qu'est mon organisation ou l'application que je mets à disposition. Dans ce contexte-là, enrôler l'utilisateur par rapport à l'authentification multifacteur que tu évoquais et fournir par rapport à toute cette expérience la personnalisation souhaitée de l'ensemble des pages qui peuvent être affichées dans le cadre de l'interaction avec l'utilisateur. Et en finalement, le retour, c'est de dire quels sont les revendications, les claims applicatifs que je vais fournir dans le jeton de sécurité à l'application.
Ok. Ok. Dans une deuxième partie du livre blanc, donc là, tu décris cette fois-ci comment on peut aujourd'hui tester, mettre en œuvre dans un environnement de test le nouveau service en question. C'est très détaillé. On peut donc tu expliques comment créer notre annuaire B2C pour démarrer, et puis ensuite comment le mettre en œuvre dans une application. Donc, créer voilà.
Avec à partir d'une application exemple qui est disponible sur GitHub, il y a un ensemble d'applications exemples d'ailleurs qui sont disponibles sur GitHub. Donc, j'en ai pris une dans la liste, mais il y en a d'autres par rapport à des expériences mobiles par exemple. Donc là, il se trouve que c'est une application très très simple, qui est une application web. En l'occurrence, c'est une application ASP.NET MVC qui permet ensuite à l'issue de l'authentification et des différentes expériences, donc création d'un compte, signature, édition de son profil, réinitialisation de son mot de passe, authentification multifacteur, on passe un petit peu tout ceci en revue, et l'application permet de montrer en finale les claims qui sont reçus à l'issue de toutes ces opérations. Bon, après, on sort du registre et de la valeur ajoutée du service. Ensuite, c'est toute la magie de ce que peuvent intégrer les développeurs dans leur solution. Mais ça, c'est plus de notre sort, Pascal.
Voilà. Et puis, tu parles aussi donc des scénarios particuliers comme l'ajout de l'authentification multifacteur, le reset de mot de passe, donc la réinitialisation de mot de passe, et puis la collecte d'informations supplémentaires durant le provisionnement, durant l'enregistrement de l'utilisateur dans le cas d'un compte local, etc.
Voilà, et on conclut sur les nouvelles fonctionnalités qui vont apparaître au fil de l'eau, puisqu'on parle de service. Donc, qui dit service dit en général évolution en continu. Donc, il faut s'attendre d'ici à la disponibilité générale un certain nombre d'expériences et de caractéristiques qui sont d'ores et déjà annoncées, plus également ce qui était annoncé également, c'est une nouvelle édition Premium que j'évoquais en tout début d'échange.
Entre nous, on a une date de disponibilité générale pour le service ou c'est trop tôt?
C'est des choses qui peuvent apparaître assez vite, parce que le point que je n'ai pas mentionné, c'est que pour construire finalement, donc l'édition Premium existe en fait dans la pratique, il y a un certain nombre de clients qui l'utilisent en version préliminaire privée. Ça a été la même chose finalement pour ce qui est disponible aujourd'hui en version préliminaire public, on a eu une longue période en fait d'écoute, d'échange avec des organisations multiples, à Limoges du Real Madrid que l'on mentionnait. Et on a d'ores et déjà beaucoup de clients qui sont en production avec la préversion publique de Basic ou avec la préversion privée de Premium. Donc c'est quelque chose qui peut, après on n'a pas d'annonce aujourd'hui, mais ça peut intervenir dans un futur relativement proche, en tout cas pour la version basique.
Ok, donc pour ce premier service B2C basique, qu'on verra bientôt en général availability, comme tu le disais. Et on va passer à un deuxième sujet, qui est le sujet du deuxième livre blanc que tu publies, que tu vas bientôt publier, puisqu'il est en cours de relecture.
Mm-hmm. Et qui donc j'espère fin de semaine, comme je le disais. Mais
bon, voilà.
Fin de semaine ou début de semaine prochaine, mais en tout cas, on est dans cet espace-là, puisque tu l'as sous les yeux, donc tu peux
comme
voir
ce qu'il est écrit,
en l'occurrence.
Comme la vie est bien faite, quand tu dis fin de semaine, ça veut dire aujourd'hui pour les gens qui nous écoutent. Mais
oui.
On ne sait jamais.
On ne sait jamais. mais tu sais, on est un petit décalage horaire, donc on ne sait jamais si ça peut intervenir dans la nuit. Donc,
voilà.
La fin de semaine vaut jusqu'au quelque part au samedi matin pour nous.
Donc, Azure Active Directory B2B collaboration.
Donc on est sur l'autre registre, donc on passe du business to consumer au business to business.
Et donc on va parler fédération d'identité.
Voilà, on est toujours dans le registre des utilisateurs externes. C'est vrai qu'on ne l'a pas mentionné précédemment, mais jusqu'à maintenant, ce sur quoi on s'était consacré de façon principale sur Azure AD, c'était faire en sorte de permettre à nos clients ou nos partenaires pour le compte de nos clients de bien gérer les identités internes, de pouvoir gérer dans ce contexte les appareils des utilisateurs internes et offrir au travers de tout ceci un accès conditionnel approprié à un ensemble d'applications, que ce soit des applications SaaS type Office 365, Salesforce.com, Dropbox ou autres, ou des applications de l'entreprise dans le cloud, alors dans le cloud Azure, dans d'autres clouds, ou des applications hébergées à demeure, par exemple au travers d'un service comme Azure AD Application Proxy. Donc un accès finalement à différentes applications, des applications mobiles également, à différentes applications de façon contrôlée avec des journaux, des rapports, au travers de ce hub d'identité qu'est Azure AD. Ce que l'on n'avait pas abordé et que l'on aborde désormais avec d'un côté B2C et B2B, c'est la capacité de gérer des identités externes finalement avec cette même technologie, mais avec une technologie qui peut être le cas échéant adaptée parce que ça répond à, potentiellement à des caractéristiques et des exigences qui ne sont pas forcément les mêmes. Donc on a brossé quelques différences avec les identités consommateurs dans le cadre de B2C, notamment avec une volumétrie qui fait qu'on n'a pas forcément tout à fait les mêmes prérequis par rapport à la technologie sous-jacente Azure AD, ou avec des utilisateurs externes. Alors, c'est quelque chose que l'on connaît depuis finalement un certain temps, puisqu'on a parlé, ça remonte à quelques années, ça va te rappeler des souvenirs, Pascal, mais on parlait de l'entreprise étendue il y a déjà bien longtemps, avec finalement, on utilisait la fédération d'identité, comme tu le soulignais, ce qui m'amène finalement au scénario qui était jusqu'à maintenant utilisé pour ces scénarios indépendamment d'utiliser un hub d'identité comme Azure AD. On avait une des premières approches qui a été utilisée pour du business to business. Ça nous ramène aux premières années de la fédération d'identité. Donc, si on essaye de donner une date, on est dans une plage 2003, 2005, 2006, où on utilisait finalement des relations de fédération d'identité avec d'autres organisations pour finalement offrir un accès à ses partenaires business, certaines de ses applications. Le problème de ce modèle, qui est un modèle classique pour l'accès à des partenaires extérieurs, c'est que généralement, beaucoup d'organisations ont potentiellement des milliers de partenaires. Donc, qui dit milliers de partenaires, va dire de facto des milliers de relations de confiance. Alors, des milliers de relations de confiance, d'une part, à établir techniquement avec une infrastructure, des milliers de relations de confiance à maintenir dans le temps avec cette même infrastructure, tout ça avec un niveau de contrat de service dans le cadre de la relation métier entre les deux organisations qui est avec un minimum de services à garantir par rapport à des accès qui peuvent être multiples sur la planète. Donc, ça veut dire potentiellement au-delà d'une tolérance aux pannes, d'une répartition de charges, également des mécanismes d'accès depuis différentes plaques géographiques, etc., etc. Mais si on revient à la difficulté même de la relation d'approbation, en termes de fédération, ça veut dire potentiellement supporter toute la variété des protocoles que peut vouloir utiliser le partenaire en question pour accéder à l'infrastructure. Donc ça veut dire avoir une plateforme qui potentiellement sait gérer au même moment de multiples protocoles de fédération d'identité. En cas des protocoles de fédération d'identité, il y a bien souvent de multiples profils qui leur sont assortis. Donc pouvoir vis-à-vis d'un partenaire particulier utiliser un profil particulier pour pouvoir échanger avec lui. Et puis comme tu le sais, quand on dit fédération d'identité, on va utiliser massivement un certain nombre de certificats. Donc ça veut dire établir la confiance dans des chaînes de certificats qui sont différentes, faire en sorte que les certificats ne sont pas émis ad vitam aeternam, donc faire en sorte que quand un certificat de signature de jeton est renouvelé, l'information soit bien prise en compte de l'autre côté, pour l'organisation qui invite et qui donne l'accès à une application. Donc, c'est beaucoup de complexité d'une façon générale, à la fois pour établir et pour maintenir en fait toutes ces relations d'approbation. Et puis, c'est finalement aussi un modèle. On va voir dans les grandes organisations, on va généralement parler de rang de partenaires. On va voir les partenaires de rang 1 qui sont de très grands partenaires, de rang 2 un peu petits, et puis de rang autres qui sont vraiment très petits. Et puis, si on parle des très petits, bien généralement, les très petits n'ont pas cette capacité d'avoir une infrastructure de fédération pour pouvoir échanger avec l'organisation qui souhaite leur donner accès à des applications. Donc ça veut dire qu'il va falloir, pour l'organisation qui souhaite s'ouvrir à un certain nombre d'acteurs externes, gérer aussi potentiellement un certain nombre de cas particuliers qui sont toutes les organisations qui ne sont pas à même d'échanger en fédération d'identité avec les choix qui sont en place ou qui n'ont pas d'infrastructure qui sont à même de le faire ou qui n'ont pas d'infrastructure du tout. Donc, ce qui conduit finalement à un deuxième modèle qui est le modèle où l'organisation qui souhaite inviter des personnes extérieures pour accéder à certaines de ces applications, va créer en interne des annuaires personnalisés pour gérer ces identités externes. Et là, on tombe sur également d'autres travers. Un des travers principaux, me semble-t-il, qui est au-delà de la capacité de provisionner l'identité, c'est surtout la capacité de ne pas la déprovisionner au bon moment. C'est-à-dire qu'à partir du moment où une autre organisation va me communiquer une liste de personnes. Et pour cette liste de personnes, je vais créer des comptes dans un de mes annuaires. Ces personnes peuvent quitter l'organisation partenaire et l'organisation partenaire peut tout à fait omettre de me fournir l'information, ce qui fait que la personne qui n'appartient plus à l'organisation partenaire dispose encore chez moi d'un compte tout à fait valide et peut continuer à accéder à mes applications dans un contexte qui est pour le coup, plus du tout valide en tant que tel. Donc, ce qui pose potentiellement des problèmes importants. Et puis, là, je parlais d'une infrastructure propre pour gérer ses partenaires, avec potentiellement, si c'est une infrastructure à côté, pas forcément les mêmes règles de sécurité. Donc, ça pose également d'autres questions. Mais il y a également, au-delà de ça, tout le coût que cela veut dire. Parce qu'on évoquait tout à l'heure, Pascal, par exemple, par rapport au B2C, la capacité de réinitialisation de son mot de passe. Si c'est ton organisation qui héberge en fait des identités d'une autre organisation pour permettre l'accès au sein de ton organisation, des applications clés dans la relation commerciale que tu peux avoir avec ce partenaire. S'il faut que tu gères et que tu endosses tout le coût de gestion des identités du partenaire, ce n'est pas forcément ce que tu souhaites.
Oui, tout à fait.
Donc, on essaye avec B2B, finalement, collaboration, pour revenir à un autre sujet, un autre modèle qui est de dire... finalement, on a, si aujourd'hui on admet que, typiquement, par exemple, une solution comme Office 365 a un succès certain, pourquoi ne pas faire en sorte que, par exemple, des organisations qui ont choisi Office 365 puissent collaborer entre elles très facilement, à la fois par rapport à Office 365, mais d'autres applications qu'elles auraient dans leur locataire Azure AD, dans leur répertoire Azure AD respectif. Et ça fait déjà, c'est donner en fait la capacité à quelques millions d'organisations de collaborer au quotidien. Et puis, utiliser cette même capacité, tant de cette capacité, pour faire que, je parlais tout à l'heure des très petits partenaires qui n'ont pas d'organisation, à faire en sorte que leur soit créé automatiquement, lorsqu'ils sont invités, un locataire Azure Active Directory par rapport à leur adresse mail.
Voilà, donc l'idée de base, et arrête-moi si je me trompe, c'est de profiter... Et c'est le principe quand même du cloud public en général, c'est de profiter de l'infrastructure et des services fournis par Azure et en l'occurrence Azure Active Directory pour héberger toutes ces mécaniques de fédération d'identité, d'approbation, de trust, etc.
C'est quelque part, c'est un peu ce que j'aime dire souvent, c'est utiliser la puissance du cloud pour maîtriser et gérer le cloud.
Voilà. Et donc... si l'entreprise qui souhaite communiquer avec un grand nombre de partenaires a un Azure Active Directory, un annuaire AAD, et que tous ces partenaires ont également un Azure Active Directory,
la chose sera assez simple.
Voilà. Et pour les petits partenaires qui n'en auraient pas, il y a, et c'est là une grande valeur ajoutée, effectivement, un mécanisme qui permet d'inviter les utilisateurs et de les faire participer à ce mécanisme-là, même s'ils n'ont pas au départ un annuaire Azure Active Directory.
Exactement. Et en fait, c'est le même mécanisme. Tu as dans la pratique deux temps et deux workflows principaux. On appelle le temps de l'invitation et le temps de l'acceptation de l'invitation.
Voilà.
Imaginons que tu sois, en un nom très classique, l'organisation contoso.fr. Tu as effectivement en place, au travers d'un abonnement Office 365 ou non, ou autre, tu disposes d'ores et déjà finalement d'un locataire Azure Active Directory dans le cloud. Par rapport à cet annuaire Azure Active Directory, tu as typiquement d'ores et déjà tes propres utilisateurs, tu as les appareils de ces utilisateurs, et puis tu as déclaré un certain nombre d'applications et qui permettent à ces utilisateurs, depuis leurs différents appareils, de disposer d'une expérience d'authentification unique entre toutes ces applications. Et maintenant, il se trouve que vis-à-vis de certaines de ces applications, tu souhaites donner l'accès à des utilisateurs externes.
Tout à fait, typiquement le cas de...
Rien changer de tes habitudes par rapport à l'ajout d'utilisateurs tel que tu peux le pratiquer dans Azure AD, gratuit, basique ou premium aujourd'hui. Depuis l'interface, par exemple, le portail de gestion d'Azure AD, tu vas typiquement ajouter un utilisateur. Et quand tu ajoutes un utilisateur, depuis le 16 septembre dernier, tu as une option supplémentaire. Donc jusqu'à maintenant, tu avais la capacité d'ajouter un utilisateur de ton organisation, tu avais la capacité d'ajouter un utilisateur d'une organisation externe par rapport à des locataires dont tu avais la maîtrise. Maintenant, tu as une autre option qui est d'inviter des utilisateurs et partenaires externes. Et dans ce cadre-là, tu es invité à charger un fichier CSV. Et ce fichier CSV contient quoi ? Eh bien, contient simplement la liste des utilisateurs externes référencés par leur adresse mail professionnel. Aujourd'hui, on ne supporte pas encore les adresses type Google+, mais c'est les choses qui pourront potentiellement arriver. Aujourd'hui, c'est une adresse professionnelle, typiquement Litware ou Fabricam.fr, pour rester par rapport à des noms de sociétés que l'on pratique dans nos environnements de test pour illustrer les fonctionnalités. Et par rapport, donc chaque ligne représente un utilisateur externe d'une organisation externe que tu souhaites inviter. Et dans la configuration de chaque ligne, dans ce fichier CSV, tu vas avoir un champ pour préciser les applications auxquelles cet utilisateur externe est invité à accéder, donc l'application que tu as déclarée dans ton Azure Active Directory, les groupes de sécurité qu'il doit rejoindre après l'acceptation à l'issue de l'acceptation de l'invitation, et l'expérience de branding, l'expérience de personnalisation pour les mails d'invitation qui vont être envoyés aux adresses mail qui référencent ces mêmes utilisateurs. Et tu vas préciser également, à l'issue de l'invitation, lorsque l'utilisateur va accepter l'invitation, quelle est finalement l'adresse ou l'application sur laquelle l'utilisateur va être redirigé. Donc ça peut être une application particulière pour laquelle tu as invité l'utilisateur, mais ça peut être typiquement le portail MyApps.
Tout à fait.
C'est par exemple ce que l'on va faire si tu souhaites inviter l'utilisateur à accéder simultanément à un certain nombre d'applications chez toi. Donc tu charges, tu constitues au préalable ce fichier CSV. Depuis le portail Azure AD, depuis la gestion des utilisateurs, tu souhaites ajouter un utilisateur, tu vas charger ce fichier. Et le fait de charger ce fichier dûment renseigné fait que tu vas initialiser au niveau Azure AD un workflow qui va faire que pour chaque ligne correspondant à un utilisateur, va être envoyé un mail personnalisé à l'utilisateur avec une URL personnalisée lui permettant d'accepter l'invitation. Donc ça, c'est la première partie. En regard de cette première partie d'un point de vue administrateur, tu as, comme tu disposes d'ores et déjà d'un certain nombre de rapports, tu as des rapports pour suivre en fait l'état des invitations, à la fois par rapport au déroulé du workflow et ensuite ce qui se passe une fois que les utilisateurs ont accepté l'invitation. Donc aujourd'hui, c'est quelque chose qui se fait, qui s'initialise depuis l'interface graphique. D'ici à la disponibilité générale, on peut s'attendre également à pouvoir disposer de cette même capacité d'un point de vue API, pouvoir le réaliser également de façon programmatique. Mm-hmm. Donc ça, c'est la vue administrateur de l'organisation qui invite. Donc là, pour le coup, c'était notre organisation Contoso. Maintenant, la vue finalement utilisateur partenaire, eh bien, par rapport à l'adresse mail sur laquelle a été envoyée l'invitation, si tu es un utilisateur partenaire qui a été désigné dans ce fichier, tu vas recevoir un mail qui va être personnalisé avec, le cas échéant, le logo de l'organisation, le logo de l'application que tu es, pour laquelle tu es invité à disposer d'un accès. Et lorsque tu souhaites accéder, donc tu vas cliquer donc sur le lien unique qui se trouve dans le mail, tu vas être redirigé sur un portail B2B, qui est une émanence de cette nouvelle fonctionnalité d'Azure AD, sur lequel tu vas être amené à t'authentifier. Alors, si tu disposes, ton organisation, en fait, dispose déjà d'une infrastructure Azure AD, tu vas être invité à t'authentifier avec ton compte correspondant. Et si ça n'est pas le cas, c'est là qu'on a l'expérience d'embarquement, finalement, des petits partenaires. Tu vas être invité à renseigner quelques éléments qui va permettre, en fait, derrière, de créer un locataire non géré Azure AD correspondant au suffixe de l'adresse mail.
D'accord. Donc, il y a création d'un locataire dans cette opération.
De façon complètement transparente. Et après, de la même. Donc, c'est une expérience que tu as déjà aujourd'hui, par exemple, avec Azure RMS. Hein,
d'accord.
Le partage d'informations sécurisées, c'est la même expérience qui est reprise. Et il est. Donc, après, deux utilisateurs avec le même suffixe d'adresse mail seront dans ce même annuaire non managé et on donne la capacité à une organisation de récupérer la gestion, si elle le souhaite, de ce locataire Azure Active Directory pour ensuite rentrer finalement dans un cadre plus standard.
Donc, toute la marche à suivre est bien décrite dans la deuxième partie de ton livre blanc concernant la mise en œuvre et le test de la fonctionnalité.
Voilà. Il y a même également. Elle est un petit peu plus lourde en termes de mise en œuvre, plus lourde, si je puis dire, parce qu'il faut disposer de locataires.
Oui,
donc,
mais
dans le déroulé, on propose de créer, comme il s'agit de recevoir des adresses mail, on propose d'un côté de créer un locataire Office 365 pour disposer directement d'une infrastructure de messagerie et recevoir les invitations. Et de l'autre côté, locataire Azure Active Directory vraiment de base, puisqu'on part de l'édition gratuite sur laquelle on rajoute une application que l'on souhaite exposer à des utilisateurs externes. Donc on construit finalement les deux environnements cloud, celui de l'organisation qui invite et celui... l'environnement pour les utilisateurs de l'organisation invitée.
Voilà. Donc tous les détails sont présents, y compris la construction de ce fameux fichier CSV qui nécessite d'aller trouver des ID d'applications, de groupes, etc. Donc tu mets bien les commandes PowerShell pour récupérer tout ça.
Oui, tout à fait.
C'est vraiment très complet, très clair. Donc il n'y a pas de raison de ne pas faire le test. C'est vraiment très bien documenté.
Et c'est assez simple, me semble-t-il. Donc,
écoute, ça a l'air.
Une fois qu'on a compris qu'il y a deux workflows finalement, qui
voilà.
Se déroulent du côté de l'organisation qui invite et l'autre par rapport à chaque utilisateur de l'organisation invitée ou des organisations invitées, on voit assez bien, me semble-t-il, ce qui se passe.
Bon.
Donc voilà pour ces deux nouveaux pour services et fonctionnalités qui sont disponibles pour tout un chacun depuis le 16 septembre dernier. Vis-à-vis de ce qu'on n'avait pas abordé très précisément aujourd'hui, qui était la prise en charge des utilisateurs externes. Alors aujourd'hui, finalement, on a Azure AD dans ses éditions gratuites, basiques, premium, avec chacune des caractéristiques par rapport à un contexte d'utilisation. Le fait que, typiquement, un abonnement Office 365 s'appuie sur un Azure AD gratuit, par exemple, des contextes d'utilisation qui font qu'on va être dans une certaine situation que l'on peut upgrader ou pas au travers d'autres offres type Enterprise Mobility Suite, par exemple. Par rapport à ceci, la capacité de disposer de fonctionnalités pour le B2B ou la capacité de créer, reposant sur les mêmes technologies, mais avec des exigences et des cibles différentes, un service derrière un locataire particulier pour le B2C. Mais d'une façon générale, ce qu'il faut retenir un petit peu de tout ça, c'est que au travers d'Azure AD, finalement Azure AD B2C, Azure AD B2B, ce que l'on va proposer à nos partenaires et nos clients, c'est un continuum global pour gérer toutes leurs identités, qu'elles soient internes ou externes. Après, au-delà du vocabulaire qui va décrire tel service ou telle caractéristique, c'est d'utiliser dans ce continuum, finalement, la technologie qui fait le plus sens par rapport à ce qu'ils ont à faire. Mais en tout cas, leur donner le choix.
Exactement. Donc, Azure Active Directory est un sujet à part entière dans toutes nos offres cloud et de gestion d'identité. Eh bien, Philippe, pour retrouver donc vos white papers, parce que tu n'es pas le seul à contribuer à cet ensemble de livres blancs concernant Azure Active Directory, c'est une seule adresse, donc c'est votre Sway.
Oui, tout à fait.
aka.ms/aadpapers. Mm-hmm. C'est en anglais, comme tous les livres blancs d'ailleurs que vous publiez, ils sont en anglais, mais c'est compréhensible tout de même, donc n'ayez pas peur du fait que ce soit en anglais. Ce sera toujours en anglais, hein, Philippe.
Pour cette série, oui, je pense qu'on aura l'occasion peut-être ensuite d'écrire au travers d'un ensemble de webinaires courts telle ou telle caractéristique. Donc c'est peut-être des choses qui vont arriver dans un futur proche, mais pour coller au plus près de l'actualité, partager le plus largement possible et avoir le plus grand nombre de retours pour finalement essayer d'avoir au final quelque chose de plus pertinent possible, la tentation effectivement de rester en anglais.
Et puis il y a un deuxième souhait sur lequel tu publies des choses concernant Azure RMS, enfin RMS et Azure RMS.
Oui, tout à fait. Donc, qui est un peu organisé de la même façon, avec des domaines connexes, puisque le sujet n'est pas tout à fait le même, même si on peut avoir des points de regroupement ou d'utilisation de technologies communes, puisque l'infrastructure Azure RMS, par exemple, s'appuie pour l'authentification sur celle d'Azure AD. Donc, de facto, on va retrouver quelques éléments communs. Donc, on va avoir un souhait qui, du coup, dans l'adresse, va être relativement simple à retenir, puisqu'à la place d'AD, il suffit de mettre RMS. Donc finalement, pour retrouver ce souhait, ça va être aka.ms/rmspapers en un seul mot et avec un S à la fin.
D'accord. Donc je mettrai tout ça sur l'article associé à l'épisode.
Voilà, et puis ce qui est important pour nous, j'évoquais tout à l'heure, enfin ou à l'instant, plus exactement, l'intérêt des retours, c'est d'avoir effectivement de la part de nos auditrices et auditeurs leurs commentaires. Ce qui est mis à disposition leur donne satisfaction, c'est très bien, on est ravis. Si ce n'est pas tout à fait le cas ou si ce n'est pas le cas, on est également très intéressé pour avoir les retours et comprendre ce en quoi il serait nécessaire d'évoluer pour offrir des choses plus pertinentes.
Donc Philippe, tu as un Twitter, c'est Philbert D, PHILBERD, je le mettrai également. Donc hein, tous les commentaires sur Twitter. À moins que tu aies un autre moyen privilégié pour les remontées de commentaires.
En l'état, non, mais non. On peut partager des choses. Donc peut-être, Pascal, tu pourras peut-être faire des propositions.
sinon, y a mon Twitter également, Pessolière, pour tout ce qui est remonté vis-à-vis de ces épisodes. Donc, Philippe, merci beaucoup.
Je t'en prie, Pascal, c'est moi qui te remercie
pour m'avoir donné
à l'occasion de pouvoir peut-être présenter ces services et d'offrir un premier niveau d'introduction sur un sujet qui me semble intéressant aujourd'hui pour nombre d'organisations.
Voilà, et puis ces sujets sont toujours vivants, donc on se retrouvera certainement une autre fois pour la suite des aventures de Azure Active Directory. Merci Philippe.
Écoute, ce sera avec le plus grand plaisir. Merci Pascal.
Bonne
Merci à tous les auditrices et auditeurs.
Voilà, bonne fin
journée.
De semaine. Au revoir. Au revoir.